Et vous écoutez France Culture. Oui, je commence par claquer des doigts, et si tu n'obtempères pas, ensuite, c'est toi qui claques, Monsieur Colombe. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre, dit en île de trafic en coup de main avec la parution chez Dupuis du 13e et dernier tome de la saga Théodore Poussin. Une geste conradienne signée Franck Le Gall. Franck Le Gall qui est ce soir notre invité. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais genre où l'on court ce soir, et Mauvais genre bande dessinée, puisque notre invité, je le répète, est Franck Le Gall, bonsoir.
Bonsoir.
Dernier passage de Franck Le Gall à Mauvais genre, c'était il y a bien longtemps.
C'était au début de la radio.
Voilà, au début de la radio.
On parlait de TSF à l'époque, voilà. On ne faisait pas radio.
Et les studios étaient à la Tour Eiffel.
Tout à fait, c'était Bruno Coquatrix qui m'avait accueilli. Voilà. Non, pas Bruno Coquatrix, c'est ce que je raconte, c'était Pierre Lazareff qui m'avait accueilli à l'époque et... Il était tout jeune, il démarrait.
Voilà.
Là, oui, oui. Mais c'était hier.
Et on était à l'époque stagiaire, donc...
Voilà, et Maurice Chevalier était invité aussi avec moi.
Voilà, bah vous avez des souvenirs. On a cherché les documents d'archives, on ne les a pas trouvés.
Mais il était sûr qu'il démarrait non plus, on n'a pas beaucoup fait attention à lui à cette époque-là. Il n'y en a eu que pour moi.
Voilà, ben le ton est donné. Bonsoir Franck Le Gall.
Bonsoir. Ça y est, bonsoir dans le sens allez-vous-en, c'est ça
ou... Non, vous pouvez rester encore un peu.
J'ai le droit de rester.
Restez encore un peu.
Mais écoutez, moi j'essaie de faire mauvais genre. On me dit c'est mauvais genre, donc j'essaie de faire mauvais genre. Ouais.
Non, mais vous y arrivez tout à fait. Il y a, je pense, 15 ans, vous y arriviez déjà très bien, donc on ne peut pas dire que vous avez travaillé le rôle depuis toutes ces années.
J'ai commencé au berceau, vous savez.
Voilà, on voit ça. Bonsoir Sixtine Audebert.
Bonsoir François.
Je ne veux pas vous demander votre actualité.
Eh bien non, puisqu'il n'y en a pas.
Puisqu'il n'y en a pas, on en aura une dans quelques temps,
voilà,
au moment des résultats de l'agrégation. Mais en tout cas, donc, vous êtes là pour nous parler de, également,
Hip Hop Family Tree. Le tome 3.
Antoine Guillot est là également, bien évidemment.
Bonsoir François.
L'actualité d'Antoine Guillot.
Mon actualité, c'est l'actualité de la ferme du Buisson avec le festival Pulp, voilà, qui se déroule ce week-end avec, comme toujours, des créations de pièces de théâtre. L'ami Louis Fang adapte la bande dessinée de Cyril Pedrosa. Trois ombres, mise en scène Michael Serre. Le grand succès de Fab Caro, Zaï 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 Zaï, est adapté aussi sous forme de pièces radiophoniques théâtrales. Donc c'est extrêmement formidable. Avec Adèle Haenel, notamment, dans une des protagonistes. Et puis, c'est toujours des grandes expositions chez Pulp. Alors là, c'est pas uniquement ce week-end, ça dure jusqu'au 21 avril à la ferme du Buisson, avec notamment une très impressionnante exposition Druyer, exposition rétrospective, et même plus que rétrospective, puisqu'on a les sources de Druyer, les bandes dessinées qui l'ont influencé, et notamment les grands formats. Parce que pour savoir ce qu'est vraiment Druyer et comprendre comment il arrive à faire tous ces petits détails de maniaque, il faut aller voir ces planches qui sont dans des formats très hauts, c'est-à-dire une planche de Druyer, ça fait au minimum 1,5 m de hauteur, donc ça laisse effectivement de l'espace pour creuser dans le détail, mais les auteurs qui l'ont impressionné, ben, ça faisait aussi à peu près cette taille-là, c'est-à-dire que vous avez des planches de Prince Valiant, par exemple, absolument sublimes, qui sont en toute hauteur, planches de Paul Gillon, notamment, voilà. Et alors vous êtes plongé dans le monde de Druyer, c'est absolument extraordinaire. Alors dans un autre genre, et très mauvais genre également, vous êtes plongé aussi dans le monde des requins-marteaux et de la collection BDQ. C'est-à-dire qu'ils ont investi cette petite maison qu'il y a dans la ferme du Buisson, dans laquelle il y a souvent des installations. Blex Bolex avait relu la ferme des animaux dedans, la chute de la maison Huchère avait été aussi relue par notre cher Ludovic de Berme. Alors ici, nous entrons dans les bureaux, dans la fabrique de BDQ. Ils sont partis déjeuner, ils nous ont laissé les clés ouvertes et nous voyons comment ça se fabrique une BDQ. Alors, il y a notamment le coin de l'entrepôt des rouleaux de sopalin qui sont très importants pour lire les BDQ. Vous avez le bureau du directeur où se font des sextapes de BD, d'auteurs de BD. C'est-à-dire que vous avez tout un rayonnage de cassettes VHS où vous avez Bilal, tome 1, vous avez Soleil et Fils, vous avez voilà des bandes extrêmement compromettantes. Et puis vous avez l'atelier avec toutes les remarques de l'éditeur sur les planches exposées. Voilà, c'est très très rigolo et très très beau comme exposition. Et très très à l'image déconnante des requins marteaux et de BDQ. Puis il y a aussi David Prudhomme qui est allé dessiner des sumos au Japon. Ça donne une très très belle exposition. Florence Testa qui expose ses masques. Vous savez qu'elle fait des masques de gros nez. Donc vous avez l'exposition Big Nose Art de Florence Testa. Et voilà, c'est toujours passionnant. C'est Pulp, c'est à la ferme du Buisson tout ce week-end et les expositions jusqu'au 21 avril.
Faut que le gars soit tenté par faire un opus de BDQ.
Oui, oui, pardon. Non, c'est-à-dire que là, je vais pas avoir le temps. Et puis justement, ce jour-là, j'aurai une angine. Ça m'empêchera tout à fait de voilà.
On dit ça, mais on ne sait jamais. On vous attend peut-être au tournant.
Par contre, je suis très content pour Philippe Drouillet, parce que j'aime beaucoup Philippe. Et puis oui, il a raison, ces grands formats, Prince Vaillant, moi j'ai vu Prince Vaillant, ça m'a marqué à l'âge de 11 ans, à vie, Prince Vaillant, mais il faut imaginer des choses comme Little Nemo ou Crazy Cat. Il faut imaginer Crazy Cat, c'est sur un mètre de haut, ça avait une autre gueule que quand tout petit comme ça et tout, quoi. Oui, le format c'était important, et Philippe en effet a toujours fait des planches gigantesques, c'est admirable.
D'ailleurs, à réécouter sur le site de France Culture, Antoine Guillot, la descente, la visite
d'atelier,
que nous avions
c'était
fait,
déjà un monde.
Voilà, à l'atelier de Philippe Bruyer.
Mais là, c'était que pour nous, tandis que maintenant, l'exposition, c'est pour tout le monde.
Voilà, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire demain, tous à la ferme du Buisson, pour le festival Pulp. En tout cas, maintenant, le moment sacral est arrivé. Nous allons ouvrir l'encyclopédie pratique des mauvais genres. Et quelle est la lettre choisie aujourd'hui, ma chère Céline?
C'est la lettre D comme Dubois. Aurélie Dubois.
Je me révèle dans une forme moderne, saturée, antinaturelle, artistique, vive, puissante, à venir. L'épouvante me rassure, vos grimaces m'enchantent. L'indifférence ne me concerne pas.
Quelle est la qualité que vous préférez chez un homme ?
Sa féminité.
Quelle est la qualité que vous préférez chez une femme?
Sa capacité à engendrer le mal et ses gesticulations phalliques.
Votre occupation préférée?
Changer le buis fané des crucifix.
Anamnèse est le titre de cette vidéo qui représente l'artiste Aurélie Dubois, assise dans un atelier vide, les yeux bandés, en train de répondre aux questions d'une voix enregistrée sur un agra à bandes. À travers ses réponses se dessine petit à petit son univers, celui de l'artiste de garde, concept créé avec le psychanalyste et écrivain Daniel Androwski. Être artiste de garde, c'est s'intéresser aux réprouvés, à la sexualité, aux pulsions, aux animaux, à la folie. C'est considérer que le processus de création est sacré et que l'art n'est pas l'amuse-gueule des financiers. Aurélie Dubois dessine, photographie, peint, fait des vidéos où le corps a une place importante, un corps en mutation, un corps en proie au désir et aux pulsions, un corps qui peut se métamorphoser. Elle fait notamment une série de vidéos avec l'extraordinaire Monsieur Tran, une personne septuagénaire qui peut se transformer en chamane, accoucher d'une poupée ou déambuler en robe légère au milieu des champs. Car souvent, dans le travail de l'artiste, on découvre ce que l'on ne veut pas être vu. Comme cette œuvre intitulée « L'origine de la couleur » qui représente un anus d'homme, une photographie frontale issue de séances sadomasochistes auxquelles elle a assisté.
Alors moi, Aurélie Dubois, artiste garde, avec mon « Origine de la couleur », on est face donc à cet écartèlement de la zone fessière de l'humanité pour montrer le trou que tout le monde possède, c'est-à-dire l'anus. Les animaux, les femmes, les hommes, les bébés, les vieillards, tout le monde a un anus. Alors moi, je trouve que cette partie du corps est très énigmatique pour le coup et rigolote. Enfin, pour moi, elle est énigmatique parce que je suis artiste et voilà. Mais pour les psychanalystes, elle l'est moins parce qu'ils pourraient en parler et dire beaucoup de choses. Et qu'est-ce qui sort de l'anus? C'est un magma de matière fécale marron. Et donc le marron, qu'est-ce que c'est? C'est le mélange de toutes les couleurs primaires. Quand on mélange toutes les couleurs primaires, on obtient du noir ou du marron. Donc, c'est intéressant, je trouve, même, enfin, surtout de façon d'ailleurs ésotérique, énergétique et tout ça, c'est-à-dire au-delà même de l'anus. C'est-à-dire que on mange de la lumière, on mange de la matière, on mange des choses qu'on aime, qui sont colorées, qui nous font du bien, qui nous maintiennent en bonne santé, hein, et qu'à la fin de tout ce process de digestion et d'absorption de cette beauté, d'absorption des goûts, de ci, de ça, ça devient une matière qu'on ne veut plus voir, dont il faut se séparer, qu'il faut quitter. Donc c'est ça, l'origine de la couleur. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est d'associer cette idée de l'origine de la couleur au stade anal, parce qu'évidemment, je ne suis pas psychanalyste, donc je ne vais pas forcément bien en parler, mais en tant qu'artiste, qui ressort de ce que je sais de ce stade-là, évidemment, c'est qu'on est dans le stade des perversions. Quand une mère fait une fixation sur ses enfants au stade anal, le stade de la propreté, ci et ça, elle fait une fixation qui génère des perversions. Je te donne ou je te donne pas, enfin, c'est tout un process comme ça. Et donc, ce qui est amusant, c'est de se dire que ce petit caca marron est quand même aussi le résultat d'un mélange de plein de couleurs, et que ce petit caca, c'est la sortie et l'origine de beaucoup de perversions qui est en lien justement avec les dictatures, la maltraitance animale, les maltraitances sexuelles, les maltraitances corporelles, les maltraitances affectives, toute la panoplie des maltraitances. Ça peut venir de là, disons, quand c'est maltraité justement.
Vous pouvez retrouver l'univers d'Aurélie Dubois sur son site internet www.aurélie-dubois.com. L'occasion de découvrir l'emblème de l'artiste, un marteau, clin d'œil au métier de ferronnier de son père, mais aussi outil qui sert aussi bien à construire qu'à détruire. Sinon, vous pouvez la retrouver en ce moment à Roubaix dans le cadre d'une exposition collective intitulée Organicon, à voir jusqu'au 12 mai à la galerie QSP. À noter aussi deux de ses prochaines expositions personnelles en 2018 à Paris, dont D'or et lit au bois, au 24 Beaubourg du 6 au 15 septembre, puis en décembre, mes tresses d'école, en trois mots, mes tresses d'école, à la Galerie de la Voûte à Paris.
Merci Céline pour cette entrée. Aurélie Dubois de notre encyclopédie pratique des mauvais genres, un point de vue Franck Le Gall. Féerie anale d'Aurélie Dubois
Non, pas spécialement, je suis très éloigné, vous l'aurez compris, de ce que fait Aurélie Dubois. Et là, je ne suis même pas encore remis de Paul Cézanne. Vous savez, je pense que j'en ai encore pour quelques années avant de comprendre Paul Cézanne.
Donc, Paul Cézanne, quand tu lui posais la question, maître, quel tableau êtes-vous en train de faire, il répondait un pot de merde. Je me souviens de cette anecdote.
Voilà le lien, qu'on cherchait, l'origine de la couleur est là aussi.
On dit beaucoup de choses de ce qu'a dit Paul Cézanne, et pourtant Paul Cézanne était très peu disert.
Voilà, sauf pour des moments d'alirisme éperdu. Céline Duchesnay.
Et juste pour vous rappeler une prochaine actualité, concernant surtout Richard Bohringer, que j'ai pu interviewer dans le cadre de D'Avoix Nues, et qui sera diffusé...
La voilà votre actualité.
Bah oui, parce que du coup je l'impose, puisqu'on ne la demande pas. Ce sera diffusé le 23 avril, donc toute la semaine du 23 avril, où on pourra retrouver Richard Bohringer. C'est un D'Avoix Nues qui a été réalisé par Laurent Polleret. Donc on reste en famille. Bohringer, Polleret, Duchesnay et Angelier. Allez.
Voilà, absolument. Tout le monde est là. La fête peut commencer.
Ne pas rater, parce que c'est vraiment un très bel entretien, parce que c'est une bien belle personne et vraiment une voix d'une richesse extraordinaire. La voix de Bohringer, rien que pour ça, il faut ouvrir son poste.
Et nous l'ouvrirons et nous rendrons hommage par contre à Isao Takahata lors de la prochaine visite à Mauvais Genre de notre ami Fausto Fazulo. En attendant, eh bien, bouclons le sac, passons la coupée et puis cap pour les aventures donc lointaines, les aventures orientales de Théodore Poussin, puisque nous recevons ce soir Franck Le Gall pour la 13e aventure de Théodore, le dernier voyage de l'Amok, c'est chez Dupuis.
Thank you.
Debussy, la terrasse des audiences, et pourquoi,
Oui, excusez-moi, j'étais en train de pianoter dans un coin du studio.
Oui, c'était
interprété
par excusez-moi, sur le Steinway du studio de Radio France. Alors, pourquoi ce choix? Parce qu'effectivement, allusion directe au neuvième tome de la saga de Théodore Poussin qui porte ce titre. La musique vous influence souvent, Franck Le Gall?
Il est difficile que la musique influence vraiment une bande dessinée qui est malgré tout un genre avant tout littéraire. Ce sont des domaines très difficiles de faire passer de la musique en bande dessinée. On peut l'exprimer par on a recours à des subterfuges, on met des notes de musique, il faut alors faire appel à des choses connues comme Nous irons à Valparaiso du capitaine Haddock.
Le grand air des bijoux de la Castafiore.
Oui, c'est ça, le grand air des bijoux. Bon, qu'enfant, je ne connaissais pas. Donc, moi, je lisais ça. Je n'avais pas la mélodie dans la tête. Mais non, là, pour Debussy, c'était juste que j'avais envie de pratiquer un jeu littéraire qui se faisait dans les salons de la préciosité. Et avec des gens comme Musset, tout ça, et qui consistait à prendre un proverbe et à l'illustrer. Comme, il faut jurer de rien, il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée, etc. Et donc on partait d'un proverbe et on l'illustrait. Et j'ai eu envie de me livrer à un jeu comme ça, parce que je trouvais ça intéressant, de partir d'un titre et ensuite de chercher à l'illustrer. Et plutôt que de partir d'un proverbe, puisque ça avait déjà été fait, et j'ai eu cette idée de partir de trois préludes de Debussy.
Ce qui a vu le vent d'ouest, la terrasse des audiences.
La terrasse des audiences du clair de lune et la sérénade interrompue. Voilà, je les ai choisis, bien sûr, mes titres soigneusement, sachant qu'un est un vers de Charles Baudelaire. On retombe encore sur Charles Baudelaire dans la série, et qu'en plus, c'est un vers. Le poème était inspiré du Pantum Malais. On a quand même une fameuse boucle. Et ces trois préludes. Oui, il y avait les sons et les parfums tournent dans l'air du soir aussi. Je vous l'avais peut-être dit, je ne sais plus. Et voilà, ensuite, en partant de chaque titre, j'ai imaginé, j'ai commencé à construire mon histoire. Seulement à l'époque, chez Dupuis, on estimait que c'était très prétentieux, tout de même, de marquer en page de titre.
D'après Claude Debussy.
Oui, inspiré de trois préludes de Claude Debussy.
C'était pas vendeur.
C'était pas que c'était pas vendeur, c'est que c'était très prétentieux. C'est-à-dire qu'il n'y avait vraiment aucune passerelle entre nous et la culture tout court. Nous, on était vraiment les rock'n'rollers de la culture. À l'époque, on m'avait coupé mon titre.
À l'époque, en 1995.
Oui, tout à fait, c'est pas si vieux. Mais la terrasse des audiences. J'aurais souhaité, bon, sur la couverture, je comprends, mais en page de titre, j'aurais au moins souhaité que ce soit la terrasse des audiences du clair de lune. Même ça, j'y avais pas eu droit.
Le résultat, vous avez réussi à faire passer dans ces deux albums, vous avez réussi à faire passer un tour de force parce qu'ils se sont dit ouf, on a échappé à Debussy. Donc ils n'ont pas fait attention sans doute au fait qu'il y avait des pages entières de dialogues écrits et avec juste une illustration et qu'il a donné tout d'un coup une sorte d'aparté à la fois théâtral et littéraire dans cette bande dessinée qui était d'une modernité absolue. Moi je me souviens d'avoir reçu ça à l'époque quand je l'ai lu en disant mais qu'est-ce que c'est gonflé, qu'est-ce que c'est fort.
Merci. Parce qu'il m'a surpris, c'est le bon accueil du public par rapport à ça. C'est l'éditeur, non, bien sûr, ça, il s'en est rendu compte. Mais là, on est dans un champ littéraire. Ce sera juste plus littéraire que d'habitude. Donc ça, ils l'ont accepté, ils l'ont compris. Ce qui m'a le plus étonné, c'est que les lecteurs ne réagissent pas en disant « Ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a plus de dessin. Où va-t-on-nous? Si ça continue comme ça, ça va devenir des romans, alors ?» Non, le public l'a bien pris. Et puis, c'était une expérience. C'était pour eux. Mais c'était pas gratuit. Il s'agissait de scènes qui, si je les avais dessinées, auraient pris 4, 5 ou 6 pages et qui, graphiquement, auraient été statiques et ennuyeuses. En même temps, j'avais le désir de dire tout ce que je disais dans ces textes. Donc l'idée m'est venue de supprimer les dessins et de ne garder que les textes. Ça fonctionnait bien, je pense.
Ouais. Alors Debussy n'est pas bande dessinée, et pourtant, Antoine Guillot, quand on lit l'œuvre de Franck Le Gall, on a quand même affaire à quelqu'un qui est debussiste à la fois par le raffinement, par la variété, par la rigueur. C'est quand même, voilà, c'est une bande dessinée debussiste depuis les départs.
Mais qui est éclectique aussi, comme l'était Debussy et qui était assez proche du jazz au début, parce que moi je me souviens d'avoir découvert Franck Le Gall avec Valérie Bonpain. Valérie Bonpain, saxophoniste de jazz, c'était au tout début des années 80, période où le rédacteur en chef chez Spirou était Alain de Keuch, hein, si je me souviens bien.
C'est lui. C'est malencontreux chez vous, cette bonne mémoire comme ça. Là.
Et ben c'était pas mal. Il essaie de lutter, mais il n'y arrive pas.
C'était pas mal.
J'aurais préféré qu'on oublie
Valérie
tout ça.
Bon. Non, mais non, il faut pas rougir, parce que c'était pas mal du tout. Et puis après, évidemment, bon, est arrivé Théodore Poussin, ça, on va en parler, on va développer le personnage. Mais c'est vrai que c'était un héros un peu étrange dans le contexte de l'époque, assez inhabituel, parce que, d'abord, c'est un anti-héros, tel qu'il est posé au départ. On va voir que la question...
Un non-héros, non-héros.
Oui, enfin, voilà, non-héros. Oui, c'est pas le anti-héros, le pauvre type à qui il arrive, voilà, des trucs. Mais ce n'est pas le héros. C'est-à-dire que c'est un personnage qui se fait balloter au début, qui va rencontrer son destin avec la personnalité très étrange de Monsieur Novembre. Monsieur Novembre qui arrive sur un air de Baudelaire, justement, et qui va beaucoup évoluer. Parce que ce qui est très passionnant avec cette série, avec le personnage de Théodore Poussin, c'est que c'est un personnage déjà qui vieillit, qui évolue. Donc il n'y en a pas beaucoup dans la bande dessinée. On se souvient qu'un des premiers, ça a dû être le Bleuberry de Charlier et Giraud.
Prince Valiant,
bien avant, effectivement, qui vieillit, et dont on voit arriver le fils. Généralement, dans une série,
c'est ça qui m'a marqué.
Voilà, le héros est statique. On est censé resservir la même soupe à chaque fois au lecteur, parce que s'il l'a aimé une fois, on se dit il va racheter, parce que c'est la même chose. Alors, chez Théodore Poussin, c'est jamais la même chose. C'est-à-dire que ça évolue, y compris stylistiquement parlant, ce qui est très passionnant, c'est qu'on sent que c'est un trait qui vous accompagne, vous, dans votre propre évolution, à la fois votre vieillissement, votre évolution physique, ce qui a pu vous arriver dans la vie, et que Théodore Poussin est un peu votre journal de bord aussi, même si au départ, c'est inspiré par la figure du grand-père, un grand-père marin, famille de marins, Charles Théodore Lecoq, voilà, qui vous raconte ses aventures et à partir desquelles vous brodez. Alors on peut prendre l'histoire de Théodore Poussin comme des grands cycles. Peut-être qu'un cycle s'achève actuellement avec ce 13e tome. Un premier qui serait le cycle de l'enfance, c'est-à-dire le moment où le monde s'ouvre à vous, vous ne maîtrisez à peu près rien, on se sert de vous, on vous utilise, et puis il y a des secrets. On découvre des secrets de famille, des secrets de paternité. Et il y a ce personnage du capitaine Sten qui donne le titre du premier Théodore
1987.
Poussin, l'oncle mystérieux qui est allé s'enterrer, on ne sait pourquoi, au fin fond de la Cochinchine, et dont on découvre qu'en fait c'était un pirate redoutable et légendaire, ou pas, peut-être pas, la question n'est pas encore complètement élucidée, et qui s'avère, on peut le dire maintenant, hein, les gens ne découvrent pas, qui s'avère être le vrai père de Théodore Poussin, c'est-à-dire l'homme qui a conçu un enfant hors mariage, dont personne n'a voulu, et dont on a bien voulu récupérer l'enfant, à condition que lui-même disparaisse complètement. Donc voilà, premier cycle, on découvre qui est papa. Et puis, deuxième cycle, on grandit, alors là, c'est plus le Poussin, c'est le petit poulet, il devient adolescent, et là, il va rêver d'amour avec cette bande dessinée absolument incroyable, appareil qui est tombé, La Maison dans l'île, qui est un épisode entièrement fantasmatique, c'est-à-dire qu'on est à l'intérieur de la psyché de Théodore Poussin, de ses rêves, de ses fantasmes, rêve d'aventure, rêve de femme, rêve peut-être d'une petite vie bourgeoise aussi qu'il va essayer d'avoir ensuite en s'installant dans son île de cocotiers, ce qui ne lui suffira jamais. Alors voilà, il va rêver l'amour, et l'amour va arriver, mais lui-même est plein de déceptions, plein de mensonges, plein de choses cachées. Mmh. Là-bas. Oui, alors ça,
j'ai inventé. On peut pas toujours coller à la réalité, vous savez.
Voilà, mais on est un peu à la fin de ce cycle. Et alors, ce qui est très troublant là encore, et dernière chose avec Théodore Poussin, c'est qu'on pourrait de loin se dire, tiens, c'est une espèce de Tintin des mers de Chine, c'est-à-dire qu'il a ce côté dessin très simple du visage, cet ovale, cette tête d'œuf dans lequel on peut se projeter nous comme lecteur. Sauf que c'est pas du tout un héros transparent comme Tintin. C'est un héros extrêmement complexe, torturé, qui fait des choses pas très claires. Parfois, et on l'aime d'autant plus pour ça, qu'il lui-même ne sait pas trop par quoi il est mu, et c'est ce qu'il essaye aussi de trouver au fur et à mesure des épisodes. Et alors là, dans le dernier voyage de la Moque, il est tenté par des actions pas du tout recommandables, et qui pourtant sont terriblement humaines.
On va voir ça. Ce qui est vrai que c'est assez caractéristique de cette série Théodore Poussin, Franck Le Gall, c'est la variété l'absence, je dirais, de progression homogène. On passe d'un album à l'autre, d'un climat à l'autre, avec des ruptures, et des ruptures non seulement dans l'histoire, mais dans le climat. Par exemple, si je prends la tranche 7-8-9, la tranche 7, c'est une magnifique évocation de l'avant-veille, ou même de la veille, de la Première Guerre mondiale, dans ce milieu de Dunkerque, le milieu des marins, le milieu de la bourgeoisie. C'est d'un raffinement, d'une délicatesse. Il y a quelque chose d'ondoyant et de musical là-dedans, tout à fait étonnant, sur lequel, évidemment, va fondre la Première Guerre mondiale. Donc là, on est dans la chronique familiale, on est plus du côté des Thibault qu'autre chose. Après, pouf, c'est effectivement la maison dans l'île dont parlait le camarade Guillaume. Alors là, c'est tout à fait du fantastique. On est vraiment dans l'île des morts de Böcklin. le brouillard, qu'y a-t-il derrière le brouillard? Il y a une île mystérieuse et qui sont les personnages qui résident sur cette île? À quoi sert-on? Bon. Et puis après, on recasse encore la mécanique, on change encore. C'est la terrasse des audiences. Et là, c'est des aventures à la Kipling ou à la Conrad. Donc, il y a une volonté chez vous de maintenir, je dirais, l'histoire du personnage, mais vraiment en cassant complètement les genres narratifs et les types de récits.
Oui.
Quand je dis casser, je dis en changeant.
Oui, casser.
Le zigzag.
Casser est un terme qui me paraît un peu violent, quoi. Alors, il s'agit plus d'une forme de cubisme, en fait, de cubisme littéraire. C'est aborder les choses sous un angle et puis ensuite les prendre sous un autre angle, en montrant que un objet n'a pas qu'un angle, il faut regarder de l'autre côté, ici et là. Il y a simplement que chez moi, il est impossible de faire deux fois la même chose. Je vois pas l'intérêt de refaire ce que j'ai déjà fait, quoi. On s'en aperçoit. À l'intérieur d'une espèce de continuité, il y a tout de même moyen d'aborder la chose sous des angles différents.
Et sans perdre le personnage.
Voilà, sans perdre le personnage. Apparemment, ça fonctionne. Ça a l'air de marcher. Moi, j'aime bien à chaque histoire que j'aborde, j'aime bien trouver un angle. J'aime bien trouver une petite théorie. Une théorie, c'est un terme un peu aride, mais bon. J'aime bien trouver un angle. Ça me paraît le meilleur mot. Mais tout ça est toujours au service de la même histoire, au service de la même idée. L'idée générale, elle n'a pas bougé.
Toi, Guillaume,
ne pas refaire toujours la même chose, c'est aussi ne pas toujours dessiner de la même façon. L'évolution de votre style dont je parlais est très frappante. Et on a presque l'impression qu'au moment où les gens vous diront « Ah là, il a vraiment trouvé son style, Franck Le Gall, là c'est l'idéal, alors c'est la période, effectivement, la Vallée des Roses, la Terrasse des Audiences, une sorte de... Alors pour la Vallée des Roses, c'était une technique particulière, puisque c'était c'était la couleur directe.
Oui,
mais
en se disant,
ça y est, il a trouvé une sorte de néo-ligne claire qu'il maîtrise parfaitement. Et là, voilà, à un moment où votre trait, on aurait pu dire, se simplifier, se styliser, vous retournez, c'est très frappant dans le dernier voyage de la Moque, un sens du détail, de la texture, de la hachure qui revient, et même à l'intérieur du livre, on y viendra sans doute, des ruptures de style par moment, parce qu'il y a autre chose à raconter et que ça ne se raconte pas de la même façon.
Oui, je me suis autorisé ce genre de choses, pourquoi pas. On peut très bien faire des choses, des ruptures, des choses contradictoires, des choses qui ne répondent pas tout à coup aux mêmes règles à l'intérieur d'une même œuvre, quoi. C'est beaucoup pratiqué dans des arts très sérieux, donc pourquoi pas chez nous. Moi, la notion du style est toujours un truc qui m'embête, c'est que dans notre domaine, dans la bande dessinée, historiquement, afin que les dessinateurs soient reconnus, ils se dépêchaient d'entrer dans un style, quitte à l'inventer de toute pièce et à le... Or, pour moi, un style, je n'aime pas ce terme, c'est un style, c'est un ensemble de manies. C'est-à-dire que vous allez faire les plis de vêtements comme ci, vous allez faire les nez comme ça, les oreilles comme ça. Si c'est ça qu'on appelle le style, c'est pauvre, quoi. C'est lamentable. Le style est une chose qui doit être aussi naturelle que votre écriture, que ça doit être vous. Ça doit être vous, le style, pas une projection plus ou moins contrôlée. Donc il faut prendre son temps sur ces choses-là. Comme les peintres prenaient leur temps. Il faut pas se précipiter dans un mouvement, dans un autre, dans une mode, dans un... Non, parce qu'on va être amené à faire machine arrière et ça va être grave. Artistiquement, ça va pas être beau. Ça va pas être bien. Donc, j'ai toujours... je me contente pas de suivre ma pente, mais je me suis toujours écouté. Je veux pas m'enfermer. Je vais certainement pas m'imiter. Et... et décalquer mes albums précédents pour qu'ils soient ressemblants. J'ai voulu, mais il me semble, moi c'est le contraire qui m'étonne, ce sont ceux qui n'évoluent pas. Le monde entier est en évolution, tout évolue. Et nos visages évoluent de jour en jour, et on a tous changé les amis, je suis désolé d'avoir à vous le dire.
Embarquons à bord de la Moque, si vous le voulez bien, Antoine Guillot. Le dernier voyage de la Moque, 13e tome des aventures de Théodore Poussin de Franck Le Gall, album paru chez Dupuis, notre invité de ce soir dans Mauvais Genre sur France Culture. Alors la Moque, Franck Le Gall, c'est quand même l'ubris de l'Asie du Sud-Est. C'est un moment de fièvre furieuse, de crise de folie délirante, et c'est ce qui marque un petit peu les personnages, malgré leur apparence parfois civilisée et parfois dure à cuire.
Oui, je ne connaissais absolument pas ce terme d'amok. J'en avais jamais entendu parler. Si ce n'est, je connaissais le titre du roman de Stefan Zweig, mais je ne savais absolument pas de quoi ça parlait. Et il se trouve que, alors que mon scénario était terminé depuis longtemps et que j'étais à peu près à la moitié de la réalisation des pages, j'étais en plein dans ma découverte de Stefan Zweig et j'avais commencé à en lire plusieurs et la Moque, je me l'étais mis de côté parce que je savais que ça se passait en Malaisie à la bonne époque et tout, donc j'attendais celui-là et quand je le lis et que je vois la description de la Moque, et là j'ai fait un petit bond de 10 centimètres, je me suis dit mais c'est mon histoire. C'est plus ou moins ce que fait Théodore. Donc je suis allé vite mettre une note et le lendemain j'ai appelé mon éditeur, je lui ai dit si je changeais de titre là en cours de route, ça devait s'appeler Cocos Nucifera Island.
Oui, effectivement.
Un titre qui était presque drôle, quoi. Et si je l'appelais Le Dernier Voyage de la Moque, là José-Louis Boquet tout de suite, il m'a dit, mais oui, bien sûr.
J'adore le roman d'aventure c'est, et le roman policier.
Oui, puis c'est
qu'il en écrit lui-même.
Exactement. Et c'est un nom à la Théodore Poussin, c'est un nom un peu littéraire, c'est un peu un nom de roman, c'est un peu, il y avait l'allusion à Zweig et tout, qui tout de suite vous place un peu au-dessus des pianiclés font du ski. donc, par exemple.
Ou du surf.
Ou du surf. Je sais pas si ils font du surf. Je suis pas sûr, ça. Pas sûr.
C'est à prendre.
Pas sûr. Non, voilà, Le Dernier Voyage de la Moque, c'était évident, quoi. Quand j'ai trouvé ce titre, ben oui, bien sûr, c'est un titre à la Théodore, ça. Voilà, mais.
Antoine Guillot, alors on évoquait Zweig, effectivement, avec ce roman Amok, mais c'est plutôt une bande dessinée conradienne, comme on dit. On pense plutôt à certains romans de Conrad, on pense au Cœur des Ténèbres, cher.
C'est peut-être une fausse piste, Conrad. Je pense que les influences littéraires de Franck Le Gall sont plutôt à chercher du côté au départ de Stevenson, de Dickens, de McCorland, pour toutes les ambiances de port très pluvieux quand on est au Havre ou à Dunkerque, qu'aux références qui pourraient être évidentes comme Conrad ou Melville. C'est-à-dire qu'il y a un côté bas-fond, par exemple, de Singapour, qui est extraordinairement bien décrit dedans, parce qu'il faut, dire que ce livre prend, même s'il sort 12 ans après le précédent, la suite quasiment directe des Jalousies, qui était alors le dernier en date des Théodore Poussin. Dans ce livre, Théodore Poussin se faisait déposséder de son île, où donc il avait une plantation de noix de coco. Il aspirait à une petite vie tranquille, dont on sentait bien qu'elle n'était pas du tout pour lui, ni pour les besoins de l'histoire, ni pour ses propres besoins à lui. Et providentiellement, il se faisait déposséder de cette île par un pirate qu'il avait rencontré depuis longtemps, le capitaine Crabbe, qui est arrivé quasiment dès les débuts des aventures de Théodore Poussin, et qui, en réglant de vieux comptes, lui disait, ben voilà, maintenant cette île, elle est à moi, tu peux déguerpir. Alors dans la dernière case, on voyait Théodore Poussin dans une barque, accompagné de ce monsieur Novembre et de son ami Martin, faisant un sillage de noix de coco, comme ça, qui donnait l'impression qu'effectivement, on allait revenir en arrière à un moment ou à un autre. Et alors, les motivations de Crabbe pour s'emparer de cette île sont aussi obscures que celles de Théodore Poussin pour la reprendre. C'est-à-dire qu'il y a une revanche à prendre, il y a une vengeance, dont on sent bien qu'il n'y a aucun objet rationnel dedans. Et c'est là qu'on arrive à la moque, c'est-à-dire qu'il m'a pris mon île, je vais la reprendre parce que c'est comme ça.
Et, oui, c'est ça. C'est ça.
Mais c'est aussi une manière de solder le passé. C'est là que je me dis qu'on passe sans doute à un nouveau cycle. Et la dernière case vraiment où on demande à Théodore Poussin, bon, ben maintenant que tu l'as reprise ton île, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, ben, je vais vivre, simplement. Voilà. Il est temps d'oublier tout ce qui nous traîne en arrière et de partir à l'aventure pour de bon, en étant enfin maître de son destin.
Franck Legal.
Tout à fait. En fait, il dit plus exactement être vivant.
Être vivant, pardon.
Ce qui est aussi une promesse de l'auteur au lecteur. Il y avait un petit sous-entendu. Mais vous avez raison, quand il quittait l'île en laissant un sillage de noix de coco, il y avait un petit côté petit poussé. C'était des petits cailloux blancs. Mais Théodore ne peut pas être animé uniquement par la vengeance. C'est impossible, ça ne lui correspond pas. Donc c'était tout à coup montrer un aspect de Théodore qu'on n'avait jamais vu. Et en même temps,
déjà le montrer en guenille, le montrer barbu, le montrer sans le sou dans les bas-fonds de Singapour.
Ça, c'est Stevenson. Ça vient de Stevenson. Et pour le restant, tout le début de la moque tient beaucoup plus à Graham Greene qu'à Joseph Conrad, que j'ai pas vraiment lu, en fait, par manque d'affinité.
Oui, non, on parlait de la motivation possible de Théodore Poussin, ça peut pas être la vengeance, comme vous dites.
Ça ne peut pas être la vengeance. Par contre, on découvre un trait de caractère qu'on ignorait chez lui, ou qu'on n'avait pas bien vu, c'est que Théodore est le genre de garçon qui, quand on le jette par la porte, revient par la fenêtre. C'est-à-dire que quitter l'île, oui, il l'aurait fait de toute façon. Cette île, c'était pas pour lui, en effet. Mais, par contre, à coup de pied dans le derrière, comme un laquais, non. Donc là, il revient. C'est ça, il aime pas. Et là, c'est un aspect. Ah tiens, bon, il a grandi. Il n'était pas comme ça au début. On lui fait pas ça. Mais en réalité, la scène clé de l'album, en fait, se trouve dans sa rencontre avec Haro Satoe, cet étrange trafiquant d'armes. Et c'est elle qui lui donne à l'avance les réponses. En disant la vengeance ne sert à rien, et elle lui dit une phrase très importante dans l'histoire, c'est il vous manque une arme puissante, Théodore Poussin, c'est le pardon. Voilà. Et ça, c'est une chose, bon, qui va rebondir dans la prochaine histoire. Thank you.
Franck Le Gall est l'invité de Mauvais Genre ce soir sur France Culture pour le 13e tome des aventures de Théodore Poussin, le dernier voyage de Lamocq. Alors, ce qui est aussi marquant, effectivement, dans cet album, Franck Le Gall, c'est les seconds rôles, si j'ose dire, qui n'en sont pas, qui sont des personnages extraordinaires. Alors, il y a notamment, je citais en exergue, le Monsieur Colombe, qui est une sorte de tueur blafard et spectral, qui apparaît, qui disparaît, qui est aussi efficace que, comme ça, qui longe la muraille, personnage très étonnant, quoi, qui fait penser presque à des figures de tueurs de films noirs américains, comme ça, qui ont cette espèce d'élégance diaphane et qui vous égorge au carrefour sans aucun problème. Et puis alors, Antoine Guillaume, il y a Mickey Mouse. Alors là, il faut quand même évoquer Mickey Mouse parce que le personnage est extraordinaire, son histoire, son nom sont extraordinaires et sa mort est tragique. Je veux dire, c'est quasiment une espèce de boule de violence qui est au cœur de l'histoire.
Bah, c'est une boule de violence et une boule de bonté en même temps. Voilà. C'est un colosse malais qui s'exprime très peu et par son expression favorite qui est Mickey Mouse. Et pourquoi il dit Mickey Mouse? Parce qu'il n'arrive pas à prononcer Mickey Mouse. Il est tombé de passion quand il a vu au cinéma une bande de Steamboat Willie ou quelque chose comme ça.
Steamboat Willie,
et
ouais.
Il a découpé la pellicule pour s'en faire une ceinture qui tient compagnie aux têtes séchées de ses ancêtres. Donc c'est déjà un personnage de fiction extraordinaire, qui n'aime rien tant que caresser le crâne d'œuf de Théodore Poussin, ce qui lui déplaît beaucoup, et qui a l'air d'être un colosse inébranlable comme ça, et qui connaîtra une fin tragique, alors que vous avez réussi à créer là, un personnage qui touche tout de suite le lecteur. Quoi. On aurait presque envie des aventures parallèles de Mickey Mouse, tellement il est merveilleux. Comment il vous est venu, ce personnage?
Mickey Mouse, je ne sais plus exactement. Je crois que l'idée du malais qui croyait à de la sorcellerie en voyant Steamboat Willie et qui allait trancher 6 mètres de pellicule, je crois que cette idée-là, je l'avais déjà en 84 ou 85. De même que le personnage de Chandel, l'homme de petite taille, comme on dit.
Verticalement contrarié.
Verticalement contrarié, je ne sais pas comment on doit dire aujourd'hui. Bon.
Le pire n'étant pas là, on peut dire ça, sinon on aurait dit un nain.
Un petit nain.
Un petit nain.
Comme je disais. Oui, ce sont des personnages que j'ai exhumés volontairement de scénarios qui dataient de l'époque, juste après Capitaine Stein, à l'époque du Mangeur d'Archipel. C'était des versions alternatives du Mangeur d'Archipel, parce que je voulais retrouver cette époque-là et cette espèce de naïveté que j'avais. Je suis allé chercher dans des notes et je me suis dit, mais ça, c'était amusant. Je ne l'ai pas fait à l'époque, mais c'était amusant. Donc, il y a des personnages comme ça que j'ai repris ou des situations que j'ai reprises. Et Mickey Mouse, c'était ça. Et là-dessus, j'ai greffé le fait d'en faire un géant très protecteur pour Théodore. Et il s'est créé de cette façon-là, quoi. Mais c'est un personnage auquel je suis beaucoup attaché, oui. Ça a été douloureux pour moi de le tuer.
Le personnage de Colombe, vous l'avez créé comme le négatif de Monsieur Novembre.
Mais Colombe, oui, j'ai souvent joué sur le blanc et le noir. Vous remarquerez que la pièce où ils s'affrontent, elle est sur un échiquier. Il y a un dallage noir et blanc. Il y a aussi un dallage noir et blanc quand Colombe rencontre Buck au début. C'est un symbole très très simple. Hein. Colombe, lui, vient directement d'un roman de Graham Greene que j'avais lu étant très jeune. Qui s'appelle Le Rocher de Brighton. Et dedans, je ne me souviens plus très très bien du livre, mais il y avait un tueur. Et comme c'était à cette époque-là, j'ai dû lire ça en 76 ou quelque chose comme ça, je le rapprochais, moi physiquement, dans ma tête, j'imaginais David Bowie. Il me disait Bowie en 76. Pas Bowie avec les cheveux rouges et les robes en métal.
Ouais.
Non, le Thin White Duke. Quand il était tout en blanc avec ses chapeaux, période berlinoise et tout ça. Donc j'imaginais très bien Bowie jouer le rôle au cinéma. Et c'est resté ça dans un coin de ma tête, comme ça, ça a été longtemps enfoui. Mais là, quand j'ai attaqué Lamocq, oui, voilà, le personnage de Colombe est arrivé, et puis le métier entre-temps a fait que j'ai décliné cette idée du blanc et avec les colombes, avec ce qui induisait des parties de scénario, la façon dont il communique avec Crabbe, tout ça.
Et alors, pour finir, le personnage de Novembre est pour moi c'est un des grands personnages de bande dessinée depuis que vous l'avez inventé dans les années 80, et surtout le personnage qui a le plus évolué et sur lequel on ne sait jamais vraiment comment se positionner. C'est-à-dire qu'il apparaît comme un personnage fantastique, incarnation du destin, grand manipulateur de tout. On se rend compte au bout de quelques albums que c'est en fait un employé, un personnage d'employé du père de Théodore Poussin, censé l'orienter ou l'empêcher d'accéder à certaines vérités, etc. Et puis on le retrouve comme personnage de truqueur, en comédien d'une troupe de grands guignols. Alors c'est Novembre toute l'année, hein, huis clos maritime façon Dipty-Nègre, avec un assassin qui supprime régulièrement des membres de la troupe. Et puis là, il change encore. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais quelles sont vraiment les motivations en fait de Monsieur Novembre. Est-ce qu'il est l'incarnation du destin ou celui qui justement doit couper les fils de la destinée de Poussin pour qu'il puisse décider tout seul de sa vie.
Franck Le Gall.
Eh bien, ce qui est drôle, c'est que je ne le sais pas moi-même. Je suis le premier surpris. Mais j'y tiens, ça fait partie de ma méthode de travail. C'est-à-dire que quand au début, quand Novembre était le destin de Théodore, j'y croyais moi-même. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, le destin, c'est idiot, ça peut pas exister, ce genre de choses, le destin. S'il est le destin, Théodore a perdu d'avance, il sait tout, il va tout anticiper, tous les coups. Donc, ça peut pas fonctionner, il doit être quelqu'un d'autre que le destin. Et en relisant mes albums, je me suis aperçu que mon idée fonctionnait, il n'était pas le destin, mais il était un acteur employé par le capitaine Stein pour veiller sur son fils, etc. Et puis, il a changé de rôle comme ça au fur et à mesure, et à chaque fois, j'y crois. Mais je ne sais toujours pas qui est Novembre.
Il peut encore vous surprendre.
Il va encore nous surprendre. Oui.
On parlait de Monsieur Novembre et de Colombe, Antoine Guillot. Il y a une planche, il y a une page redoutable, c'est la page 36.
Ah bah scène d'affrontement tout à fait virulent et sanglant. Et je parlais tout à l'heure de changement de style. On a l'impression, là, tout d'un coup, que c'est presque un autre encreur qui est arrivé. C'est-à-dire que là où c'était à la plume, la même plume que Crum, hein, je crois que vous vous servez.
Ah, je me servais la même plume que Robert Crum, oui.
Et tout d'un coup, on a des planches...
Mais ce ne sont pas les plumes qui donnent le talent.
Quand même, ça aide. et tout d'un coup, on a une scène extrêmement dynamique, ancrée au pinceau, extrêmement sombre. Alors, est-ce que, quand vous écrivez un scénario, vous avez déjà ces images en tête, ou au moment où vous allez à la mise en scène, vous oubliez le gars scénariste et vous dites je vais tirer parti au mieux dans la mise en scène du texte qui m'a été fourni auparavant?
Non, moi je n'ai pas cette espèce de dichotomie, le scénariste et puis ensuite le dessinateur qui maudit son scénariste en disant ah mon Dieu, qu'est-ce que je me suis écrit là. Bon, mais je trouve ça étrange quand même, on est tous dans la même tête les gars. Et donc non, moi quand j'écris, je sais que je vais le dessiner. Après ça, je ne résous pas ces questions-là au moment où j'écris, bien sûr. Mais je n'ai jamais rien écrit que je puisse pas dessiner derrière. Je serais complètement idiot comme garçon.
Non, mais il y a une part de création qui se fait vraiment au moment du dessin.
Ce qui est clair, c'est que je n'avais pas prévu de faire cette mise en page qui doit un petit peu à Alexstott, qui est un des dessinateurs que j'admire le plus. Et... Non, c'est juste que quand j'ai abordé toute la séquence d'un coup et non pas planche par planche. C'était une grande séquence de nuit. Et donc j'ai raisonné plutôt en chef-op de cinéma. Je me suis dit bon, je suis chef-op, je fais ça comment. J'ai pas envie de faire tout bleu. J'ai pas envie de faire. C'est la nuit, c'est bleu. Donc, je vais le traiter différemment. Je vais mettre beaucoup d'ombre noire et Robin, mon fils, fera des couleurs assez claires par là-dessus. Pas quelque chose de sombre et d'illisible. Et naturellement, je suis arrivé à des découpages à l'Alex Tot. Mais cette page a failli me causer des problèmes. La rédactrice en chef de Spirou ne voulait pas passer dans le journal scène de l'égorgement de...
Oui, il faut préciser quand même que ça a été prépublié dans Spirou.
Donc, ah oui, ça on peut le dire.
Il y a beaucoup eu d'évolution quand même depuis 1984. Oui, parce qu'il y a des scènes de nus, il y a des scènes de meurtres.
Bah, les scènes de nus, vous regardez jamais la télé, voyons.
Non, mais rappelez-vous Spirou en 1984, c'était difficile de montrer un sein.
Ah bah c'était impossible, bah voilà. C'était impossible, mais dit-on n'est plus en 1984.
Précisément, il y a c'est là que je dis qu'il y a eu de l'évolution.
Il faut évoluer avec son temps, aujourd'hui on dit LOL, MDR, tout ça, alors là, des tas de choses modernes.
On évoquait des personnages saillants, violents ou en couleur, Mickey Mouse, Monsieur Novembre, Colombe ou le Capitaine Crabbe, mais il y a également, et ça on voit également par exemple dans La Vallée des Roses notamment, un grand talent chez vous, Franck Le Gall, pour arriver à camper, je dirais, les milieux, les bourgeoisies, par exemple. La bourgeoisie du nord de la France avant la Première Guerre mondiale, toute cette espèce de bourgeoisie coloniale, toujours aux limites de la loi et qui sait s'entendre avec les règlements, qui est un peu...
C'est un peu facile, voilà. Parce que ce sont des Anglais. Alors,
est-ce que vous avez une fascination pour ça, ces milieux, cette espèce de...
Aucune.
Socialement.
Aucune, il s'agit juste de travail.
Parce que vous ne les liquidez jamais, je veux dire, ça n'est jamais des personnages qui sont d'une certaine façon résumés à quelques traits comme ça, caractéristiques. On sent qu'il y a vraiment chez vous une volonté de trouver de la poésie dans ces personnages-là.
La poésie, je ne sais pas, mais j'ai besoin que tous ces gens existent. Et je ne porte pas de jugement sur eux. Ils sont comme ça. Ce n'est pas à moi de les juger. Sauf si c'est nécessaire à l'histoire. Mais là, on tombe dans ces choses manichéennes. Le méchant, le ceci, le cela. Bon, quand je montre, je ne sais pas, par exemple, la tournée qui vend le bateau.
Ce par type, exemple.
Il a des espèces de tocs.
Formidable.
Il se répète tout le temps avec ses histoires de curiosité. Non pas que je sois curieux, mais ce sont des petites astuces. Et ça me vient de mon amour pour le cinéma français des années 30 où les personnages secondaires faisaient drôlement marcher le navire. Il y avait les stars, bien sûr, mais... Il y avait tous ces gars derrière.
Les gueules.
Les Le Vigan, les Tissiers,
le Vigan, Noël. Novembre, c'est Le Vigan.
Voilà, novembre, on vient de Le Vigan.
Avec un peu de Jouvet, quand même, dedans.
Et de Richard Widmark.
Quand il pousse la dame dans l'escalier.
Voilà, exactement. Franck Le Gall, Le Dernier Voyage de la Moque, tome 13 des aventures de Théodore Poussin, c'est à lire d'urgence et c'est aux éditions Dupuis. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike, and I like to say hello. Up to the black, to the white, the red, and the brown, and the purple, and yellow. But first, I gotta bang, bang, the boogie to the boogie. Say up, jump the boogie to the bang, bang, boogie. Let's rock. You don't stop, rock the rhythm, that'll make your body rock. Well, so far, you've heard my voice, but I brought two friends along. And next time,
oui, je suis donc je vais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur puisque c'est cet intérêt de plus en plus légitimé à la fois à l'université et maintenant donc dans le monde des librairies pour l'étude de la flopée des cultures jeunes qu'ont engendré les années 60 hein, depuis le mouvement hippie donc et la rupture 68 dont on reparlera sans doute bientôt hein, en cette année 2018 jusqu'aux formes donc les plus consuméristes hein, celles de la culture geek en passant par les plus underground hein, les punks qui sont très à l'honneur en ce moment sur la chaîne grâce au séminaire de recherche du PIND et tous les émules, hein, les activistes do it yourself et cataphiles pionniers de toutes ces cultures-là. Et donc, ce qui est intéressant ici, je vais vous parler d'un travail qui a été produit dans ce même esprit et qui cherche justement à conjuguer à la fois ce caractère esthétique et historique et donc reproduire cette immersion. Et donc, c'est un voyage érudit aux origines du hip-hop que Hip Hop Family Tree, donc le tome 3, qui est un focus sur les années 83-84, représente. C'est donc une intensification du business à ce moment-là, une exportation de la musique outre-Atlantique et une espèce d'enrayement autour de la machine médiatique. Et donc cette série Dead Piscor, qui est publiée par l'éditeur français, donc Papa Guédé, un éditeur musical qui se consacre au blues. Vous aurez reconnu Papa Guédé, c'est lié au vaudou et donc c'est égal à blues. Et donc logiquement, on va vers le hip-hop puisque cette sous-culture musicale fait le lien entre à la fois le funk, le disco et le rap d'aujourd'hui. Et donc comment faire tenir dans les cases d'une bande dessinée une telle histoire culturelle, un tel foisonnement ? Alors d'abord un petit point sur, j'ai utilisé le mot sous-culture, évidemment sous-culture il faut l'entendre ici au sens de culture minoritaire avec une mythologie et des valeurs qui vont se construire comme un discours d'opposition aux valeurs dominantes. Donc l'histoire et la naissance du hip-hop c'est avant tout celle des communautés noires et latino dans le Bronx des années 70-80 autour de la Zulu Nation, donc qui entend canaliser les violences interraciales et la délinquance juvénile dans le quartier en proposant des performances collectives. Le terme de performance est important. Donc il s'agit de canaliser les énergies d'une manière positive en investissant dans une expression esthétique. Et donc dans le hip-hop, comme dans toutes les cultures alternatives, cela va aboutir à l'élaboration d'une grammaire de codes qui, au travers d'activités bien définies, vont permettre de négocier avec les codes de la culture dominante, avec les discours d'autorité, hein, que ce soit ceux des parents, ceux des majors ou la bien-pensance de manière générale. Donc premier élément de négociation, il y a évidemment le DJ, le DJing, celui qui est derrière sa table, qui mixe avec deux disques de chaque côté et qui sample, c'est-à-dire qui récupère en fait les tubes qui sont à la mode à l'époque. Et souvent on n'a pas les droits et donc ça empêche finalement de sortir le disque. Autre point de discussion, le rap, donc le flow furieux et la rime très travaillée évidemment, qui va permettre de dessiner des masques de dealers de quartier et différents personnages, une galerie qui vont servir donc à s'opposer justement au discours dominant et qui sont en fait préparés très à l'avance, soigneusement consignés dans des petits carnets par le MC, donc ancien Master of Ceremony, maître de cérémonie, qui va passer au devant de la scène au fur et à mesure de l'histoire du hip-hop. Et d'autres manifestations qui ne sont pas proprement musicales, mais qui s'associent. Le breakdance, qui aboutit à des battles, qui sont des sortes de combats dansés. Le graph, qui est véritablement en fait envisagé comme une conquête, une appropriation de l'espace urbain autour. Et évidemment, tout cela va se structurer autour d'une économie alternative. Les cassettes qui sont enregistrées pendant les concerts sont donc circulent sur un mode pirate. Ce sont des tout petits labels qui se créent pour recueillir ces premiers disques. Et évidemment, le travail des stations de radio autour est très important. Et ce sont des petites radios, évidemment, aussi. Et toutes ces caractéristiques d'opposition systématique vont les rapprocher, en fait, paradoxalement, des milieux d'avant-garde. Et donc s'ils frayent en fait avec le milieu punk, ça va pas non plus les empêcher d'être souvent fourrés avec le uptown arty autour de la Factory, hein, de Basquiat, de Debiary, tout ça c'était dans le premier tome. Et donc je pense que c'est une circulation qui est vraiment très intéressante, qui est bien mise en avant par les albums. Et les choix esthétiques justement d'Ed Pixar, ils doivent permettre justement cette immersion optimale. C'est-à-dire qu'il a été les trois tomes ont été conçus pour ressembler à des vieux comics Marvel, donc du début des années 70, avec un papier jauni, épais et volontairement grossier, et une touche pop très 70-80 qui vient prolonger la richesse des costumes, la poétique sérielle des noms et des textes. Et le mordant des portraits et l'érudition ironique, qui va permettre de tracer avec cet arbre généalogique du hip-hop une véritable réponse à la question de l'historiographie sous-culturelle par l'émotion, l'investissement, la connivence et même quand même une prise de distance constante avec son rapport de fan. Et évidemment, c'est à consommer musicalement.
Bien évidemment. On rappelle le titre.
Hip-hop Family Tree, donc le tome 3, et c'est chez Papa Guédé.
Merci Sixtine Audebert. On en parlera une autre fois, donc notamment le dernier tome de Tyler Cross, Miami, chez Dargaud.
Et moment clé du journal de Spirou, 1937-1985, d'autant que Franck Le Gall y figure lui-même, voilà. Page 305, quand Franck Le Gall écoute son grand-père.
Oui. Voilà, merci Franck Le Gall d'avoir été ce soir l'invité de Mauvais Genre. Je rappelle, et il faut le lire d'urgence, le 13e tome des aventures de Théodore Coussin, Le Dernier Voyage de la Moque. C'est aux éditions Dupuis. On se retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir suivi l'émission. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Claude Nior, Siam Boutata, Claire-Martin Duguerre, Antoine Guillot, Sixtine Audebert, Céline Duchesnet et François Angelier sont heureux de vous avoir accueillis durant toute l'émission. On se retrouve donc samedi prochain en compagnie du cinéaste Ossan. Et d'ici là, bonne nuit à tous.